Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 6 mai 2025 et c'est l'épisode 410. C'est un camouflet qui fera peut-être bien date, en tout cas aux États-Unis. Apple est contraint de modifier les règles de l'App Store, donc pour les consommateurs américains, après une décision de justice américaine, ou plutôt une mise à jour et une clarification de cette décision. On parle aussi des tensions alors, autour des panneaux solaires chinois hein, et de leur impact potentiel sur le réseau électrique. En Europe notamment, des mesures radicales proposées pour encadrer les réseaux sociaux chez les jeunes, une fois de plus, et des grandes manœuvres des géants de la tech face aux mutations géopolitiques, économiques et technologiques. On parle aussi un peu d'intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve l'un des cofondateurs de l'ancêtre de Tech Café, cofondateur du groupe Humanoïde, c'est Pierre-Olivier Guibman. Salut Pierre-Olivier, comment vas-tu ?
Salut, comment ça va ?
Ça va très bien, je suis ravi de te retrouver, d'autant plus que je me faisais la réflexion, c'est rare qu'on soit que tous les deux, si je dis pas de bêtises. Souvent, il y a Guillaume, et puis tu te joins à nous, et c'est toujours avec grand plaisir, mais là, tu es là à double titre, d'une part, parce que ça me fait plaisir de t'entendre et de t'avoir dans Tech Café, mais aussi il va falloir à nous deux qu'on fasse aussi bien que le sérieux de Guillaume Poggiastala dans le suivi de la tech. Est-ce que tu es prêt à relever
le défi ? Prêt à relever le défi, absolument.
Allez, on se retrousse les manches. Juste avant qu'on parle de tech, un petit coucou et un merci à l'équipe qui a choisi de soutenir Tech Café sur Patreon ou qui a mis à jour son soutien. C'est S. Gilles Farloche, Jean-Christophe Balsan, Jérémy G et Bédouin Vert. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de vous inscrire sur patreon.com/techcafé et de contribuer financièrement. Et merci aussi à celles et ceux qui déposent des avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict et Spotify. En l'occurrence, merci beaucoup à Karine Olivier qui a déposé un avis sur Apple Podcasts et elle dit « J'écoute ce podcast depuis environ un an. C'est l'un des rares qui me permet d'apprendre de nouvelles informations quasiment à chaque épisode. Il m'étonne, m'intrigue, me permet de m'adapter aux nouveaux usages numériques et m'a incité à intégrer l'IA dans mon quotidien. » Ça fait plaisir. Et vous savez quoi ? Eh bien, même pour moi, la daronne de 50 ans qui doit entretenir notre foyer, assurer la logistique pour les ados, je la plains tellement aussi, exécuter des tâches de secrétariat basiques, suivi TVA, devis, facture, grâce aux deux Guillaume, j'ai déjà des gains de productivité. Merci de m'avoir ouvert l'esprit, de m'avoir permis de sortir du paradigme. À moi, ça ne servirait à rien. Donc peut-être ça, c'est un message hein, pour vous qui écoutez Tech Café, qui êtes des technophiles, qui êtes des geeks convaincus. Ça vaudrait peut-être le coup de parler de Tech Café à votre entourage, y compris à des personnes qui ne sont pas les plus technophiles d'entre nous, parce que il y a sans doute à partager sur l'information pour tout le monde. Sans autre forme de procès, on va commencer alors avec un petit follow-up, parce qu'on avait parlé des panneaux solaires avec Gaëtan, qui était passé dans Tech Café il y a de ça quelques semaines. Il nous avait fait un petit dossier un peu pratique sur l'utilisation des panneaux solaires. Alors, je suis retombé sur une info qui du coup permet de nuancer un petit peu ce qu'il nous a partagé, en tout cas de contextualiser et de prendre un petit peu de recul. Il avait parlé de ça dans l'épisode 408 et il parlait évidemment de l'équipement central que représentent les onduleurs. Il y a les panneaux, il y a les onduleurs pour convertir le courant continu en courant alternatif, tout va bien. Et en fait, ces onduleurs, comme beaucoup de panneaux, ils sont produits en Chine. Et il y a Solar Power Europe, qui est une association professionnelle qui représente l'industrie solaire photovoltaïque en France, qui appellent de leur côté à un encadrement urgent de l'accès à distance aux petits systèmes photovoltaïques. Et oui, parce que ces onduleurs, ils sont connectés à Internet la plupart du temps et pilotables depuis des clouds chinois. Et ils ont commencé à identifier le problème, une attaque ciblée sur seulement, disent-ils, j'ai du mal quand même à représenter à quel point ça puisse être vrai parce que ça me paraît démesuré, mais ils disent qu'une attaque sur 3 gigawatts de capacité d'onduleur pourrait déséquilibrer une partie du réseau européen, donc selon les études qu'ils ont menées. Huawei, ça représente 114 gigawatts d'onduleurs photovoltaïques en France. Et puis, il y a évidemment, vous le savez, le droit chinois sur le renseignement national qui oblige les entreprises à coopérer avec eux pour leur donner les infos dont ils ont besoin et dont ils ont envie. C'est à mettre en lumière avec deux choses du passé. Une chose qui est un petit peu ancienne maintenant, qui est l'affaire Huawei des routeurs et puis les inquiétudes de l'ingérence chinoise sur les équipements technologiques en Occident, en Europe, aux États-Unis et la guerre qui s'en était suivie. Et puis plus récemment, il y a un autre sujet aussi qui permet de mettre en lumière ce problème, c'est le blackout en Espagne, avec cet effondrement et cette désactivation du réseau électrique qui a causé bien des problèmes et avec lequel on a du mal. Moi, j'ai du mal à sourire hein, sur ce sujet. C'est quand même un événement qui fait froid dans le dos, sur lesquels il y a des risques humains qui sont directement concernés. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, Pierre-Olivier, de mentionner aussi ce sujet parce que j'ai toujours en tête l'épisode que tu avais fait avec nous, où tu avais apporté des infos sur ce thème de l'effondrement. Et je dois dire qu'à l'époque déjà, hein, tu disais il faut réfléchir à ce sujet, non pas en ayant regardé un épisode de The Walking Dead, en imaginant qu'il y aura une attaque zombie et que c'est là qu'il faudra se poser des questions, mais plutôt avec un certain nombre d'objectifs qui sont d'avoir une consommation rationnelle, de pouvoir faire face à des situations compliquées. Tu avais expliqué cette situation où il y avait le réseau électrique au Québec qui était tombé, au Canada même, je crois, qui était tombé et ça avait suscité pas mal de réflexions. Et donc, je ne pouvais pas m'empêcher de te solliciter sur le sujet. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Pierre-Olivier, de la mainmise des équipements chinois connectés à Internet et pilotables par le cloud chinois qui permettent de gérer les réseaux d'électricité?
La partie cocasse un petit peu sur ce sujet, c'est que en général, là, quand on parle d'effondrement, et probablement parce qu'on est très influencé par la pensée anglo-saxonne sur le sujet, il s'agit de se rendre indépendant ou autonome des grands systèmes souverain. Centralisés et en particulier l'électricité. Et là, le truc, c'est que en l'occurrence, cette menace, si elle s'avère vraie, elle vient au contraire cibler les installations des particuliers qui sont, dans une certaine mesure, relativement autonomes en électricité, au moins pour leur consommation de base, etc., etc., mais qui sont quand même reliés au secteur. Donc là, il y a une espèce de douce ironie qui est intéressante à souligner. Cela dit, On en a beaucoup parlé là de ces contrôles chinois sur des systèmes. Puis ce sont des peurs qui sont parfaitement légitimes et souvent assez bien documentées quand il s'agit de grands systèmes comme les télécoms, etc. Cela dit, on les instrumentalise quand même beaucoup aussi parce que tu faisais écho au scandale Huawei, etc. On peut mentionner ZTE aussi. Mais ce qu'on avait fait en bout de ligne en Europe et en France en particulier, c'est interdire les antennes Huawei et non pas les serveurs et autres équipements de cœur de réseau. Ouais. Et donc, en fait, essentiellement, cette mesure avait pour vocation d'handicaper Free, qui lui s'équipait seulement en antennes auprès d'équipementiers chinois, alors que son cœur de réseau était entièrement conçu et fabriqué en France, là où les autres opérateurs traditionnels, à part peut-être Orange, faisaient exactement l'inverse, c'est-à-dire avaient des antennes, je pense que c'était Alcatel, ça se peut-tu ? Non, je ne sais plus quel était le fournisseur, non, c'était Nokia. Mais le cœur de réseau était fourni par ZTE. Bref, il y a des peurs qui sont très légitimes, qui sont parfois même documentées. Ce qu'on fait n'a pas forcément un rapport avec ces menaces-là, mais là, il s'agit de quelque chose qui est différent. Il s'agit potentiellement d'instrumentaliser les équipements à domicile de particuliers pour faire tomber un système central. Mmh. Et là, je suis absolument certain qu'il y a plein d'installations qui ne sont pas conformes et qui pourraient relâcher une forte puissance sur le secteur à un moment où le réseau s'y attend pas, est déséquilibré, et puis potentiellement faire tomber des choses. Mais normalement, c'est pas vraiment possible. Donc, est-ce qu'il y a une menace légitime là-dessus? Je suis pas un expert. Moi, j'ai pas l'impression. Évidemment, c'est quand même intéressant de se poser la question. Cela dit, et comme toujours, comme déjà à l'époque, dans de précédents épisodes de TechCafé, j'aimerais qu'on rééquilibre la discussion parce que la Chine est en passe de devenir une superpuissance si elle ne l'est pas déjà, mais il y a un autre pays qui l'est déjà et qui, il me semble, on commence à comprendre, n'est pas forcément un allié d'un point de vue géopolitique et ne l'a jamais été d'un point de vue commercial. Donc, qui fait nos équipements, etc., etc. Et de la même façon que la distinction antenne-équipement de réseau était importante il y a quelques années, Là, c'est pareil. L'article de Frandruid, en l'occurrence, il titre « Les panneaux solaires chinois ». Puis évidemment, le cœur de l'article, lui, par contre, est correct, mais juste le titre, et c'est ce que la plupart des gens vont lire,
c'est vrai.
Est problématique. Parce que ce n'est pas les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils récupèrent l'énergie du soleil, ils le transforment en impulsion électrique qu'on peut récupérer, etc. Ce sont les équipements qui viennent avec. Et effectivement, oui, il y a un enjeu. Globalement, on en a parlé plein de fois sur tout ce qui est connecté. Pourquoi ça passe par le cloud alors que c'est une installation résidentielle, que ça devrait rouler chez vous, et puis après vous faites un accès, un petit VPN, un machin, etc. Il y a plein de solutions qui sont de plus en plus simples et de plus en plus pratiques, y compris quand on n'a pas beaucoup de connaissances. Mais voilà, tout ça est évidemment très légitime, mais pour moi, il y a quand même du contexte à apporter et un petit peu de sang-froid à avoir. Et puis surtout à observer qu'est-ce qu'on va décider en termes de... Puis je dis « on », alors je ne suis pas concerné parce que j'imagine que ça va être l'Union européenne qui va agir dessus. Si quelqu'un agit, c'est sûrement l'Union européenne. Qu'est-ce qui sera décidé à ce niveau-là? Parce que s'il s'agit juste de tentative d'enrayer la domination chinoise sur un marché, ça va sûrement se concrétiser exactement comme l'interdiction des panneaux solaires qui viennent de Chine. Mais finalement, les contrôleurs, c'est OK. Les contrôleurs et les onduleurs, c'est OK. Exactement la même chose qu'il y a quelques années, et donc on a perdu d'un point de vue géopolitique, et en fait on n'a rien gagné commercialement non plus. Bref, voilà, à développer.
L'entité qui tire la sonnette d'alarme plaide pour, je cite, un RGPD de l'énergie. Alors je trouve ça toujours un petit peu compliqué. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est sécuriser un petit peu les réseaux d'énergie, surtout ceux qui sont un peu décentralisés et pour lesquels on s'équipe à titre particulier, et voilà, bon, je pense qu'il y a matière effectivement à soulever des questions, mais il me semble que c'est peut-être plus de l'ordre de la sécurité des équipements et effectivement de vérifier dans quelle mesure est-ce qu'il y a des fuites possibles au niveau de la Chine. Bon, ne paniquons pas tout de suite. Un petit mot au passage, parce que je me suis intéressé aussi à la situation sur l'énergie en Chine, parce qu'on parle de panneaux solaires. C'est vrai qu'ils s'équipent aussi très très bien là-bas, donc c'était l'occasion de faire un petit point. Puisque c'est un petit peu inédit, là, a priori, il y a les capacités du voltaïque et de l'éolien en Chine qui dépassent les capacités donc de production d'électricité des centrales thermiques. Il y a pas mal de centrales qui sont dites renouvelables, en tout cas avec de l'énergie renouvelable, qui sont terrestres, mais aussi beaucoup qui sont offshore. Et pourtant, la large production d'électricité en Chine qui reste lié au charbon. Il y a a priori seulement 22% de l'électricité qui est produite par du renouvelable, et n'empêche qu'il frappe très dur là-bas en termes d'investissement. Bon, il y a beaucoup d'acheteurs d'électricité à long terme, de gros acheteurs qui sont engagés à prendre de l'électricité auprès de centrales à charbon, donc ça ne se bascule pas quand même, ça ne se bascule pas aussi vite que ça quand même. La Chine, qui est évidemment le plus grand émetteur de CO2, mais quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, ils avaient mis un objectif d'atteindre 1200 gigawatts de capacité de production d'électricité en renouvelable d'ici 2030. Et ils ont atteint ça depuis un petit moment déjà, puisqu'ils l'ont même dépassé de 15% en 2024. Et fin mars 2025, donc en quelques mois, ils ont encore progressé, 1482 gigawatts. Donc ils ont rajouté encore plus de 70 gigawatts. En fait, en 3 mois, la Chine a installé bien plus que la totalité du parc nucléaire français. Donc voilà, ça me donne un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter, les productions d'énergie. On a cette image de la France qui produit beaucoup d'électricité avec le nucléaire. Je pense que tout ça est intéressant à mettre en perspective. Je continue un tout petit peu avec la Chine et puis je te laisserai préciser des éléments, réagir sur les éléments que tu souhaites de ton côté. Je voulais aussi mentionner forcément cette amende, puisqu'on parle là régulièrement des amendes des géants de la tech qui sont infligées par l'Union européenne, et puis c'est peut-être au sens large d'ailleurs que tu pourrais réagir sur ces points-là, pour savoir si tu es plutôt fier ou si tu trouves que ça va un peu trop loin. Ce serait intéressant d'avoir ton regard depuis le Québec. Mais TikTok aussi écope d'une amende cocasse, conséquente plutôt, de 530 millions d'euros. Le problème de leur côté, donc ça fait suite à Apple 500 millions d'euros et Meta 200 millions d'euros, on en a parlé la semaine dernière, ça soulève le problème de la gestion des données des citoyens européens, avec toujours pareil, comme pour les onduleurs, l'accès potentiel pour les autorités chinoises dans le cadre des lois anti-terrorisme contre espionnage. Ils ont 6 mois pour se conformer au RGPD, ils vont faire appel. C'est quand même leur deuxième amende. Hein. Ils avaient déjà eu une amende de 345 millions d'euros en 2023 déjà pour la protection des données personnelles des mineurs. Quel regard tu as, toi, depuis le Québec, de ces amendes-là qui semblent se succéder ? Je ne suis pas certain que ça va durer très longtemps, cette histoire d'amende à coût de centaines de millions d'euros pour la tech. Mais quand même, comment tu vois ça, toi, en habitant juste à côté du géant américain avec votre situation à vous ?
Bah, ce qui est certain, c'est que c'est sûr qu'en Amérique du Nord, c'est pas... Je ne vais pas dire que les gens ne se sentent pas concernés, parce que c'est sûrement pas vrai, mais c'est pas un sujet aussi important que pour l'Europe.
La protection des données, tu veux dire, de manière générale ?
Oui, oui. Même des entreprises qui ne font rien avec les données vont les prendre parce qu'elles le peuvent. Moi, j'ai déjà eu accès auprès de certaines entreprises à leurs analytics. Puis là, j'étais choqué de voir des courriels, des adresses, des choses comme ça. Je me suis senti sale en regardant. Je suis comme, tu sais, un petit peu là, comme si quelqu'un commence à taper son mot de passe en clair devant toi. Tu es comme, oh là là, je ne devrais pas voir ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est, d'une façon générale, les pratiques en termes de protection de la vie privée ne sont tout simplement pas aussi développées. Et encore une fois, sans même qu'il y ait nécessairement un besoin, une stratégie commerciale, une intention particulière. Juste, ben, on peut. Peut-être qu'un jour, ça servira. Ou même, c'est plus simple comme ça. Donc, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ne comprennent même pas pourquoi ces amendes seraient justes, encore moins qu'elles soient nécessaires, etc. etc. Ceci dit, avec le développement du machine learning, etc., je ne suis pas sûr que les différentes juridictions aient autant de leviers à l'avenir, parce qu'en fait, les données personnelles, elles peuvent être récoltées à un endroit, servir à entraîner un modèle à cet endroit-là, puis le modèle est shippé sur l'infrastructure centralisée de l'entreprise et fait son boulot sans qu'il n'y ait plus aucune donnée personnelle qui transite. Mais l'effet reste le même. Et là, je pense qu'on aura beaucoup moins de leviers.
On reparlera un tout petit peu de l'entraînement des modèles tout à l'heure dans l'épisode. On va terminer cette couverture de la Chine avec un point qui nous touche plus directement. Vous allez voir que c'est un petit peu capillotracté de ma part, mais il y a quand même un lien. Un ancien chef de gouvernement en France, Gabriel Attal, j'ai l'impression, voudrait émerger avec des propositions qui se voudraient à la fois novatrices, mais que je ne peux pas m'empêcher de voir comme étant un peu malgré tout réac, peu importe. Il a pris la parole récemment dans une tribune avec Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre qui a pignon sur rue, qui est bien connu de la part de la sphère, de la sphère des parents, qui s'intéressent à l'éducation de leurs enfants, et qui estiment qu'il y a un état d'urgence qui doit être déclaré contre les écrans avec des mesures radicales, je cite, pour sauver la jeunesse d'effets délétères sur les réseaux sociaux. Entre anxiété, dépression ou troubles du comportement alimentaire, la santé de nos jeunes est en péril et la responsabilité des écrans est immense, affirme-t-il. Les adolescents passent entre 3h30 et 5h par jour devant un écran. Entre parenthèses, je n'ai pas de point de repère pour les adultes, mais je pense que c'est beaucoup aussi. L'ancien Premier ministre et pédopsychiatre, ils souhaitent, eux, créer un entretien d'évaluation de la dépendance aux écrans à l'entrée en 6e et puis en 2e. Donc, ça me fait sourire, ayant moi-même un enfant qui est en 5e. J'essaie de me projeter s'il avait un tel entretien d'évaluation à remplir. Il plaide pour même l'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un couvre-feu numérique de 22h à 8h du matin. Tu vois, c'est très précis. Quand bien même les enfants ils commenceraient à 9h ou à 7h le matin, peu importe. Pour les 15-18 ans, il y aurait ce couvre-feu. Il devrait même y avoir une obligation que les réseaux sociaux passent en noir et blanc pour une heure au moins après 30 minutes d'usage. Bon, juste, je ne vais pas tout détailler. Pourquoi je parle de la Chine ? C'est parce qu'ils mettent en avant les restrictions des usages, notamment en Chine, avec des réseaux équivalents TikTok. Ils disent d'ailleurs, même la Chine le fait avec TikTok, ce qui n'est pas vrai parce que ce n'est pas TikTok en Chine. Peu importe, on comprend l'orientation qui est prise, qui dit en Chine, ils ont des décisions qui sont fortes à ce sujet-là. On devrait faire pareil. Et en fait, Pierre-Olivier, je suis partagé de mon côté parce que je n'ai pas d'études qui montrent qu'il y a une causalité entre l'usage des réseaux sociaux, des adolescents et les troubles qui sont identifiés. En même temps, on sait qu'il y a une forme de corrélation et on sait que ça a tendance à amplifier parfois, enfin on sait, j'ai vu dans des études le fait que les consommations des réseaux sociaux auprès des adolescents qui n'étaient pas forcément à l'aise dans leur vie pouvaient être accélérées et on pouvait en tout cas mal vivre le fait d'être exposé aux réseaux sociaux dans ces moments-là. Et puis, je me suis rappelé, il y a une étude britannique que j'ai retrouvée qui a été diffusée dans le Lancet et qui a mis au jour un lien direct de causalité entre le temps passé sur les réseaux sociaux et le risque de souffrir de dépression, et en particulier chez les filles. C'est identifié auprès des garçons, mais c'est très, très facilement, encore plus facilement identifié chez les filles. L'usage des médias sociaux serait lié à une dépression accrue chez les jeunes qui connaissent déjà une plus grande hostilité parentale, enfin un équilibre familial moins fort, un harcèlement par les pères, une anxiété, etc., etc. Je m'adresse à toi, Pierre-Olivier, pour deux raisons. C'est que je sais que en général, tu as des positions sur les propositions politiques qui, au premier abord de cet ordre-là, sont assez ubuesques et nombre de fois, dans des épisodes de Tech Café, on a pu critiquer des décisions politiques déconnectées de la réalité des usages de la tech. Et en même temps, je le sais, Pierre-Olivier, je ne pense pas trahir un terrible secret, tu as mis les deux pieds dans le monde de la paternité et peut-être que ton regard... je ne dis pas évolue, mais change avec le temps. Comment tu perçois tout ça ? Est-ce que je vois ça comme des positions réac ou quand même il y a des choses à réfléchir ?
Restons sur la partie politique au tout début. L'angle réac, je pense qu'il est prêt. Il y a clairement une espèce de nostalgie du ministère de l'Instruction publique, les enfants en uniforme. Oui, madame, oui, monsieur.
Alors qu'il n'y a jamais eu d'uniforme, en fait, en France, au passage. Voilà.
Non, non, exact. Mais la nostalgie n'a pas besoin d'être véridique. Je vais dresser un parallèle transatlantique. Le Québec vient de rejoindre la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard sur l'interdiction du cellulaire à l'école primaire et secondaire. Donc, secondaire. Pour ceux qui ne sont pas nostalgiques du ministère de l'Instruction publique, c'est collège et lycée. Puisque fut un temps, en France, ça s'appelait secondaire aussi. Peu importe. C'était déjà interdit en classe, pour des raisons évidentes. Mais là, c'est interdit à l'école. Dans les murs de l'école, il ne sera pas possible pour les enfants et les jeunes d'avoir un téléphone mobile. Évidemment, ça engendre tout un paquet de questions parce que les parents eux-mêmes sont devenus dépendants à où est mon gamin ? Pourquoi il ne m'appelle pas ? Est-ce qu'il est chez Timéo ? Est-ce que ceci ? Est-ce que... Bon, bref. Mais ça s'accompagne aussi d'une autre mesure qui est que les enfants doivent vouvoyer le personnel scolaire, enseignant et administratif. Donc, l'angle réel, il est là, il est présent. Je veux pas me mouiller de est-ce que c'est justifié ou pas. Moi, je m'en fous, plus ou moins, là. Mais simplement, c'est un constat politique que ces mesures-là ne sont pas seulement prises sur la base de recommandations en santé mentale, en comportement, en sciences de l'éducation, etc., etc. Il y a clairement une volonté de revenir aux sources. Que ces sources aient existé ou non, là n'est pas le débat. Maintenant qu'on a évacué ça, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Sur la partie, je commençais par me projeter chez moi. Pas de cellulaire à l'école. Honnêtement, tout le monde a survécu jusque-là sans. Je ne vois pas vraiment d'enjeu. Alors après, on va m'opposer que mais il y avait une cabine téléphonique au collège, et machin, etc. Bon, honnêtement, ça peut se refaire. Là, c'est pas si compliqué, mais le truc, c'est oui, ça peut avoir un effet, un bénéfice pour la concentration, pour l'attention des jeunes, pour les activités sportives, et lutter contre la sédentarité, etc., etc. Mais quand on arrive aux questions de santé mentale, de harcèlement, etc., etc., est-ce que ça règle vraiment le problème ? Ça règle pas le problème si les enfants ont accès à Internet à la maison ou en dehors de l'école d'une façon générale, le harcèlement qu'il pourrait subir à l'école va continuer d'avoir lieu sur Internet avec son effet démultiplicateur parce que les jeunes ont accès aux réseaux sociaux, etc., etc., en dehors de l'école. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'effet de bénéfice là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut prendre le chemin de la France et dire, les jeunes, ils ont juste à pas être sur les réseaux sociaux avant 15
actuellement,
ans.
Actuellement, c'est 13 ans. Hein. La loi interdit aux 13 ans.
Mais c'est
ans.
Ça l'affaire. Et c'est la loi, c'est les règles sur la plupart des plateformes. Est-ce que c'est appliqué et est-ce que c'est applicable? Pas vraiment. Tu sais, je veux dire, il y a plein de jeunes de moins de 13 ans. Puis je vais même aller plus loin. Sur Frandroid, on a eu des rédacteurs de moins de 13 ans. Et des bons, vraiment. C'était à l'époque où les rédacteurs étaient bénévoles. On sortait tout juste d'une époque où il y avait plus ou moins juste nous qui écrivions. On voyait des belles choses sur les forums. On avait envie d'ouvrir la rédaction à des bénévoles. Donc, ça va vraiment être extrêmement difficile à appliquer. Et puis, ils feront autre chose. Ça va être des groupes iMessage ou WhatsApp. Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est pas un réseau? C'est juste, c'est pas lucide en termes de technicalité, etc. Et puis, tu le sais, il va y avoir des parents qui vont être sollicités pour créer des comptes pour leurs enfants ou leur donner accès à du contenu. Donc, ça ne règle pas vraiment l'enjeu. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie bonne solution. Et sur le sujet de est-ce qu'il y a une corrélation avec les effets de dépression, machin, etc., il y a définitivement une corrélation. Est-ce qu'il y a une causalité? Ce n'est pas sûr. Moi, les derniers trucs que j'ai lus sembleraient indiquer que c'est plutôt l'inverse.
Et donc, tu
te sens
vas
mal,
dessus.
Tu développes des troubles de comportement. Et exactement, de la même façon que tu vas manger tes émotions, de la même façon que la plupart des troubles apparaissent, ce sont des réactions à des mal-êtres qui te font te sentir mieux temporairement, oublier ta souffrance. Et évidemment, tu ne peux t'en sortir que si tu deviens conscient que tu es en train de pallier temporairement à un problème permanent. Et donc, ça n'est pas la bonne solution. Et ça, c'est le discours qu'on donne aux adultes, parce que les adultes sont capables de raisonner. Mais est-ce que nos jeunes sont suffisamment mûrs pour, à un moment donné, se débloquer et se dire « Tabarnak, ça fait 4 heures que je suis en train de traîner sur les réels d'Instagram. Est-ce que ça m'aide ? Non, ça ne m'aide pas. Il faut que je fasse autre chose. Ce n'est pas ça mon problème. J'ai d'autres problèmes dans la vie. Il faut que je les règle, etc. » Donc, peut-être que couper l'accès à ces jeunes, à ces outils-là, ça leur permet non pas de régler leurs problèmes, mais au moins de temporairement préserver l'état dans lequel ils sont pour pas que ça empire. C'est une grosse réponse.
Non, mais le sujet est trop vaste. Il faudrait faire des épisodes entiers, je pense, là-dessus. Surtout que j'ai un petit peu de bouteille maintenant. Non pas que j'ai la recette miracle, hein. Très, très loin de là. Je pense que j'ai fait beaucoup de conneries et j'en fais encore. Mais j'ai un petit peu de bouteille en tant que parent maintenant. Et je vois des profils en plus autour de moi. Tu sais, c'est marrant, mais ce qu'on peut voir dans les études avec les graphiques, en voyant qu'il y a des moyennes de consommation par jour des écrans, que tu vois qu'il y a des populations d'enfants qui font un certain type de truc, beaucoup. Tu as des populations d'enfants qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça ne les intéresse juste pas d'être sur un smartphone ou devant un écran. Ils préfèrent aller avec des potes, jouer au foot ou au volley. Et en fait, cette réalité et cette diversité des profils, elle ne peut pas réémerger dans des décisions de ce type-là. Et moi, c'est un petit peu ce qui me fait des signaux d'alerte quand je vois ce type de proposition dont on a l'habitude maintenant de la part de politiques. C'est quand ils mettent des grands chiffres, essayer de régir des grands horaires avec des grandes affirmations de c'est la mort de l'enfance, il faut les réguler de telle heure à telle heure, il faut qu'on passe en noir et blanc et qu'on mette, et ça fait partie des propositions, un addict score public sur le modèle du Nutri-Score pour évaluer le potentiel addictif des applications et des plateformes. Alors, je me pose vraiment la question de comment on veut le faire, mais pourquoi pas? Je trouve qu'en fait, encore une fois, il y a cette espèce de volonté d'homogénéiser des situations qui sont trop complexes. Bon, après, voilà, je ne suis pas pédopsychiatre, je suis encore moins politique, et donc on continuera à voir passer ce sujet, je pense. On va peut-être mettre de côté un petit peu ces prérogatives chinoises, mais on va quand même un petit peu regarder ce qui se passe dans le cadre, dans un autre registre, des conséquences sur nos fameux droits de douane américains, les fameux tariffs, et puis il y a aussi la décision enfin avec le décret de Donald Trump signé début avril pour mettre un terme à l'exemption douanière des petits colis hein, qui partent de Chine d'une valeur de moins de $800 venus de Chine. Juste peut-être en quelques mots, avant qu'on fasse une petite photographie de quelques éléments de conséquences qu'on voit notamment auprès de Chine et Temu, mais aussi des GAFAM. Je sais que tu es très vigilant et tu es directement impacté par une situation de proximité avec les États-Unis vivant au Canada. Comment ça se passe ces dernières semaines? Est-ce que ça se tasse? Est-ce que c'est de pire en pire? Comment ça se passe, votre sentiment par rapport aux États-Unis, Pierre-Olivier, en quelques minutes?
Je pense qu'il y a des choses qui vont jamais revenir. Oui. On a des chiffres qui commencent à apparaître que 10% des Canadiens qui possèdent un bien immobilier, alors c'est souvent en Floride.
Donc déjà tu réponds en partie quand tu parles de la vente d'un bien immobilier, mais jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire durant une présidence Trump? Ça veut dire le mal est fait trop durablement? Bon, enfin, on va pas pouvoir se projeter à 20 ans, mais
il y a un truc que les gens, même s'ils le conscientisent pas forcément et vont pas forcément l'exprimer verbalement, mais je pense qu'il y a un truc dont la plupart des gens ont quand même voient quand même inconsciemment, c'est que Biden n'est pas revenu en arrière sur quoi que ce soit que Trump avait fait dans son premier mandat. Donc, ce que Trump fait dans son deuxième mandat, quand bien même ça serait des démocrates après, c'est acté. Ouais. That's it. Ça va pas revenir pour le mieux. La seule chose qui pourrait se passer de positive pour le Canada, ben, ça serait qu'il n'y ait plus de nouvelles décisions qui soient problématiques. Ça, je pense que même si les gens ne se rendent pas forcément compte de façon active, c'est quand même quelque part gravé dans l'esprit. Donc ça, ils le savent. Effectivement, quand je disais jamais, je fais référence à des partenariats d'entreprise, des biens immobiliers, des couples binationaux qui déménagent au Canada. Pour le moment, ça, il y a pas de, j'ai pas vu de chiffres officiels. Donc c'est très fait divers. Il y a des articles régulièrement. Est-ce que il y en a plus que l'année dernière? On va savoir. Mais c'est ce qui est mis en avant dans la presse. Mais ce qui est sûr, c'est que en termes d'économie, aujourd'hui, les trucs qu'on voit, c'est que pour le moment, les entreprises américaines ont tendance à absorber les barrières douanières pour leurs partenaires canadiens, qui sont en général plus petits, parce que les échanges Canada-États-Unis sont en général beaucoup plus entre petites et moyennes entreprises. Là où, entre la Chine et les États-Unis, les cargaisons se font refuser au port, les bateaux partent pas, etc., etc. Parce que déjà, on est sur des plus grosses entreprises et on est aussi sur des relations commerciales qui ne sont pas établies depuis des décennies, etc. Donc, on se sent moins mal là pour le partenaire commercial, genre, ben non, regarde, c'est 300% plus cher, ta cargaison, je vais la refuser parce que c'est pas vrai que je vais payer. Mais ça, évidemment, ça va durer très temporairement. Et puis, c'est largesse que certaines entreprises américaines font aux entreprises canadiennes, ça va très très vite disparaître.
Bon, écoute, c'est intéressant de voir que ça va avoir des effets plus durables que je ne le pensais dans un premier temps. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Chine et Temu en particulier, hein, c'est nos chouchous, je le dis avec des guillemets que vous entendrez probablement. Il y a Bloomberg qui a fait une analyse sur le prix des 100 principaux produits beauté et santé commercialisés par Chine. Je m'interroge quand même de qui se fournit en produits beauté et santé chez Chine, mais bon, bah, peu importe. Il y a une hausse de 51% du montant de ce panel d'articles pour les consommateurs américains. Il y a certaines références qui sont proposées, qui ont même connu une augmentation qui atteint les 377%, donc on sent qu'il y a des trucs qui ont été encore plus largement impactés. Temu s'est adapté en faisant payer des frais d'importation sur les envois. Et ils vont repenser probablement le parcours d'expédition des colis aux États-Unis avec des colis qui vont être expédiés depuis un entrepôt américain. Donc, quelque part, je me dis, Donald Trump obtient des résultats dans la lignée de ses objectifs en voyant ce type de constat. Bon, à voir. Donc ça, en tout cas, on va voir comment ça se passe au niveau des plateformes chinoises. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'en face, Chine et Temu, c'était aussi des très gros clients en publicité. Je pense que vous avez largement été exposé, si vous n'avez pas des bloqueurs de pub durant les années passées, et il fut un temps, c'était même TikTok, pour lesquels il y avait énormément de pubs, je me rappelle, sur YouTube. Mais c'est vrai que les entreprises chinoises sont des très gros consommateurs de publicité aux États-Unis. Évidemment, ça touche Meta, Google, YouTube et Snap. Et il y a des chiffres qui sont tombés, donc à mettre en perspective notamment des résultats en 2024. Il y avait 18,35 milliards de dollars de revenus pour Meta depuis des entreprises chinoises. Ça représente 11% des revenus de Meta, par exemple, sur un an. Et en l'occurrence, Temu, il y a une baisse de 30% des investissements marketing auprès de Facebook, YouTube, Insta, TikTok, Snap. Je me serais même attendu à ce que ce soit bien moins que ça, enfin bien plus important que ça en termes de baisse d'investissement publicitaire. Mais en faisant une projection, un Meta pourrait perdre 7 milliards de revenus publicitaires sur une année si ça continuait. Et il y a même des projections qui se font si jamais il y avait même une récession qui était en place, jusqu'à 23 milliards de baisses de revenus pour ces entreprises-là qui bossent beaucoup avec la publicité. Donc voilà, les effets sur la guerre des tarifs douaniers vont continuer à se manifester. On va continuer à les suivre. Et juste avant qu'on passe à la suite, je voulais vous relayer un article sur lequel je suis tombé, que j'ai trouvé hyper intéressant, qui alors n'apprendra peut-être pas des tonnes de choses à certains d'entre vous, du New York Times, mais c'est sur la situation des travailleurs dans l'industrie en Chine, avec évidemment un pays dans lequel l'âge des travailleurs chinois augmente. Et évidemment, ils sont moins attirés par les jobs industriels. Et puis, il y a les robots qui arrivent largement. Et la Chine a plus de robots dans ses usines pour 10 000 travailleurs. Je trouvais cet indicateur intéressant, je ne l'avais pas vu passer avant, que n'importe quel autre pays. Il y a deux exceptions, il y a la Corée du Sud et Singapour. Et ce n'est pas que dans l'automobile, même si évidemment, c'est un secteur industriel dans lequel ça se manifeste énormément. Donc, il y a des exemples qui sont donnés dans l'article, notamment une situation avec une entreprise où il y a une grosse dizaine de travailleurs qui coupent et qui plient du métal habituellement. Et ils vont être remplacés par un robot qui est fabriqué en Chine, qui va coûter 40 000 dollars, l'équivalent de 40 000 dollars. Et puis, typiquement, il y a 4 ans, la même situation n'était pas possible parce que le robot était déjà pas produit en Chine. Là, ils sont tous produits en Chine. Mais en plus, il coûtait 100 000 dollars de plus. Donc, les coûts commencent à être bien moindre. Il y a ces fameuses zones sombres dans les usines où des robots peuvent travailler dans le noir sans assistance humaine. Donc, on sent qu'il y a une robotisation qui continue à se développer, même s'il y a encore quelques humains qui sont toujours mobilisés pour des tâches bien spécifiques. Mais par exemple, ce n'est pas le cas de la vérification qualité qui passe sous des armadas de caméras. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer dans les emplois, dans les usines, des personnes qui avant faisaient vraiment un travail d'ouvrier, qui basculent vers un travail de bureau où ils assistent des machines qui captent des images et ils font de l'analyse de données. Donc voilà, c'est un pays qui se transforme et pour lequel le poids de la main d'œuvre va sans doute évoluer. Il y a une baisse des naissances, hein. Il y a deux tiers moins de bébés en Chine nés par rapport à 1987. Et il y a les deux tiers des 18 ans qui maintenant veulent faire des études et pas bosser dans l'industrie. Bon voilà, je ne sais pas si tu voulais recompléter cette photographie, mais il y a cette guerre des tarifs en tout cas qui commence à sentir mauvais.
Très rapidement, mon seul commentaire, c'est que si je me fie au dernier voyage de Ulrich, donc
Ulrich Rosier,
fondateur de Frandroid en Chine, la Chine est très en avance sur l'Europe en termes d'automatisation dans l'industrie, sachant que l'Europe elle-même est très très en avance sur l'Amérique du Nord. Le nombre d'employés pour produire un bien est largement inférieur en Europe de l'Ouest en particulier que ce qu'on peut connaître aux États-Unis ou au Canada. Donc c'est sûr que les vœux de Trump, mais du coup par la Banque du Canada aussi, de rapatrier des emplois industriels, c'est bien beau, mais on se reparle dans 10-15 ans, le temps de développer les outils nécessaires pour ça, parce qu'ils sont pas là, et on vient de littéralement couper les ponts pour les importer. Parce que sans parler de la Chine, juste même importer des machines allemande, française ou quoi, c'est de plus en plus difficile. Donc c'est certain que les États-Unis viennent de se promettre de payer plus cher quoi que ce soit et pour toujours. en tout cas pour les deux
ouais,
prochaines
années. C'est quand même long parce que après tu n'infléchis pas la tendance comme ça, évidemment. Bon, écoute, très bien, passons, si tu le veux bien, au sujet de la semaine qui va nous rappeler nos sujets proches des smartphones et des tablettes qu'on abordait il y a une dizaine d'années. Et on voit qu'il y a des sujets qui ont mis du temps, mais qui là arrivent un peu aux aboutissements ultimes sur des conflits juridiques. Le 30 avril, il y a une décision de la justice américaine qui fait écho au procès qui voyait s'opposer Epic contre Apple. On va pas refaire tout le film, on en a largement parlé. Le sujet était fascinant, ça datait de 2021. Et oui, maintenant, ça fait 4 ans que ce truc est arrivé. Ça y est, Apple a été rattrapé par la patrouille et est désormais obligé, en bonne et due forme, d'autoriser les développeurs tiers à inclure des liens dans leurs apps pour les systèmes de paiement externes. En fait, avant, ils étaient obligés de les autoriser, mais ils le faisaient avec une commission de 27%. Le département de la justice aux États-Unis qualifie ça d'insubordination et oblige Apple à autoriser les liens sans commission aux États-Unis, évidemment. La décision concerne le marché américain et ne va pas concerner, par exemple, l'App Store en Europe ou au Canada. Je ne sais pas quelle est la situation au Canada, mais je pense que c'est la même situation qu'ailleurs dans le monde. Et évidemment, ne pas restreindre la mise en forme des liens sortants en mettant des gros messages d'avertissement en disant si vous payez ailleurs qu'avec Apple, vous allez mourir ou votre smartphone va exploser. C'est finalement même des conditions qui deviennent plus favorables d'ailleurs qu'en Europe, où on peut choisir entre l'ancien système et le nouveau qui prend en compte des commissions de 10 à 20%. Donc en tout cas, là, c'est plus confortable avec les nouvelles conditions américaines. Les conséquences ne se font pas attendre, vous en doutez. Epic, qui était largement l'acteur et l'initiateur principal de cette guerre juridique, a annoncé le retour de Fortnite sur l'App Store US. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est un truc de fou de se dire que depuis 5 ans, 4 ans maintenant, Fortnite n'est plus sur l'App Store suite à cette guerre entre ces deux entités. Et que ça a déclenché tous ces remous juridiques et que ça va revenir. Je pense qu'on ne mesure pas totalement le poids que ça peut être sur le plan juridique de la tech. Ils annoncent aussi par la même occasion des conditions avec l'Epic Game Store, alors notamment des absences de commission pour les distributeurs, enfin pour les éditeurs de jeux vidéo qui passeraient par l'Epic Game Store, qui n'auraient pas de commission sur le premier million de dollars par jeu et par an. Et après, évidemment, des commissions, mais pas trop élevées quand même. Et puis, ils proposent aussi des webshops hébergés chez Epic pour vendre des contenus numériques. Donc, si vous voulez proposer à la vente dans votre application mobile ou votre jeu mobile des skins, des DLC, etc., vous pourriez passer par les webshops Epic qui vont être proposés. Il y a aussi Spotify, autre acteur particulièrement actif dans la guerre contre la mainmise d'Apple sur la distribution économique sur son App Store, qui ont pu soumettre une mise à jour de l'app qui a été acceptée par Apple. C'est très simple, hein, maintenant on lance Spotify, on voit combien coûte l'abonnement, on peut changer facilement d'abonnement. Ça paraît fou, hein, que ce soit maintenant aussi simple. Et on a la possibilité d'acheter et de payer son abonnement autrement qu'avec Apple Pay. Et puis ça ouvre évidemment la voie à des achats ponctuels, genre si tu veux t'acheter un livre audio. Justement, Amazon, même chose, hein, avec Audible, ça va être beaucoup, et même Kindle, ça va être beaucoup plus simple d'acheter aux États-Unis des produits tiers et pas forcément plus cher en passant par des appareils iOS. Stripe, l'organisme pour encaisser les paiements en ligne, propose un package pour s'intégrer aux apps et prendre en charge l'encaissement, la vente de biens ou d'abonnements. Ça passe par une page web, hein, très simplement, en fait, comme on connaît le commerce en ligne depuis très très longtemps maintenant. On sort, on fait son paiement, on revient, puis voilà. Donc Stripe prend 2,9% de frais et 30 cents par transaction. Et évidemment, Patreon a aussi soumis une mise à jour de leur côté parce qu'ils avaient dû intégrer le fait qu'il y avait des paiements plus chers pour les abonnements Apple. Et on ne va pas revenir sur l'affaire qui a amené Patreon à suspendre les mécaniques de soutien à la création et qui oblige maintenant les mécaniques de soutien à l'abonnement, les abonnés à Tech Café sur Patreon en savent quelque chose. Pierre-Olivier, je me tourne vers toi parce que ça fait très longtemps que tu suis sujet aussi. Et puis surtout, tu as eu une casquette dans le monde du développement de l'application mobile. Tu l'as peut-être encore toujours, mais je voulais juste voir comment tu voyais ça. Spontanément, j'ai envie de me dire, quoi, tu jubiles ta sortie de champagne? Non, peut-être pas le champagne, d'ailleurs, autre chose, non?
C'est clairement, c'est, je pense que c'est une victoire pour l'économie, pour l'écosystème des développeurs. Là, t'as cité que des grands noms, là, parce que c'est ceux dont la presse s'est fait le relais. Mais la réalité, c'est que c'est plein de développeurs indépendants qui sortent la tête de l'eau, qui peuvent enfin imaginer faire quelque chose. On ne se rend pas compte, là, mais, ben, ou peut-être qu'on se rend compte, mais 30%,
Bah après,
c'est
je vais jusqu'au bout
énorme.
de l'exercice. Est-ce que c'est pas les mêmes montants que prennent Microsoft pour distribuer les jeux pour Xbox, que PlayStation pour les jeux sur le PlayStation Store, que plein d'autres magasins en ligne, en fait? Ouais.
Mais bien sûr, mais qui a commencé ce 30%? Il vient d'un seul endroit. Et bien sûr, ces montants sont
Et puis, pour
toujours
répondre à ma
inférieurs.
propre injonction,
Vraiment,
tu as moins
pardon,
le
c'est des
choix, tu as
pratiques.
moins d'alternatives si tu veux l'écosystème. Enfin, la mainmise d'Apple sur l'écosystème, bah, est beaucoup plus forte que pour d'autres acteurs de distribution de biens numériques.
Exactement. Puis il y a un autre truc aussi là, c'est que Apple a poussé sa définition de ce qui prend une commission extrêmement loin. C'est-à-dire que chez Google, bon voilà, un bien physique ou quelque chose qui était déjà vendu auparavant, avant que l'appli soit publiée sur le Play Store, il n'y en a pas de commission. Fait que des Spotify, des choses comme ça, n'ont pas été spécialement inquiets parce que ils avaient des services qui existent en dehors du Play Store. C'est la commission. Elle n'est perçue que pour des choses qui n'existent que dans l'app, qui n'existent que sur le Play Store. Et là, bon, ben, on peut comprendre que 30%, on n'est pas sur des frais, on t'apporte un écosystème, un business, quelque chose qui n'existait pas avant, que tu ne ferais pas sans nous, etc., etc. Et donc, on peut quand même dire que 30%, c'est extrêmement cher pour ça. Mais là, c'est différent de vas-y. N'importe quoi que tu fais dans la vie, du moment que ça transite par un appareil Apple, c'est 30%. On te prend 30%. Ça, c'est mafieux, vraiment. Je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et surtout, au début, d'ailleurs, de ces 30% de commission-là, c'était jamais aussi strict, là, justement. Là, des Spotify de ce monde-là ont commencé à être inquiétés que quelques années après avoir proposé leur service sur l'App Store. Et puis en plus, par la bande. On a appris sur des documents des tribunaux que Apple ne respectait pas ses propres règlements et faisait des prix à la carte pour certains. On vend des tapis ou quoi? Ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on fait du business. Les prix sont clairs, nets, établis et les mêmes pour tous. Sinon, c'est vraiment du racket. Pour moi, voilà, c'est vraiment mafieux. Ça en a la proportion et les caractéristiques, parce que c'est à la gueule
La
du client.
question va être dans quelle mesure est-ce que ça va se répercuter à moyen ou long terme sur les autres App Store? Et là, il va falloir se lever tôt parce que ça va être autant de conflits juridiques dans le monde. Mais au moins, il y a un précédent aux États-Unis. On va voir comment ça évolue pour Apple. J'ai du mal à les plaindre malgré tout, même si on peut imaginer que ça va leur faire des baisses de revenus. Aussi parce que c'est la saison des résultats financiers des entreprises de la tech. Et c'est toujours intéressant de se pencher dessus parce que je n'ai pas souvenir qu'on ait régulièrement dit qu'ils étaient mal. Alors bon, peut-être qu'Apple n'ira pas si bien que ça dans les trimestres à venir, en raison justement des tarifs douaniers. Pour l'instant, ils ont pu faire des stocks, voilà, ils équilibrent les choses par rapport à d'autres pays qui produisent les appareils Apple qui sont importés aux États-Unis. Bon, cette fin des revenus sur les abonnements qui ne passent pas par Apple va peut-être leur faire un manque, mais quand même, on va prendre une petite photo. Alors, ils ont quand même reculé, hein, l'action Apple, elle a reculé de 12%. Depuis le début de l'année. Alors, elle avait baissé de plus que ça pendant les annonces des tarifs douaniers. Donc, ils ont stabilisé la barre. Ils n'ont pas chômé, hein, avec leurs appareils qu'ils ont lancés depuis le début de l'année. À ce stade, 95,4 milliards de chiffre d'affaires. C'est plus 5% par rapport à l'an dernier. C'est un peu plus que prévu. Il y a un bon chiffre d'affaires aux États-Unis et au Japon particulièrement. Il y a un recul quand même en Chine. Et puis évidemment, ils ont pris la parole dans le cadre de la communication des résultats financiers du second trimestre fiscal concernant Apple. En disant, ils ont parlé du nouveau Siri, ils disent oh oui, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Donc, c'est intéressant de voir que c'est vraiment de la langue de bois pour, de mon sens, hein, ne pas mettre en avant les énormes problèmes qu'il y a en interne à ce sujet. Peut-être que tu voudras en retoucher un mot après, Pierre-Olivier. Il y a quand même les droits de douane qui pourraient avoir un impact de, j'ai l'impression, seulement 800 millions de dollars sur les coûts Apple. On verra si c'est plus, si c'est moins, ou comment il s'adapte par rapport à ça. Et puis, j'en profite pour dérouler, on le fait régulièrement, les résultats des autres géants de la tech. Microsoft, 70 milliards de chiffre d'affaires, 25,8 milliards de revenus, plus 18%, avec Microsoft Cloud qui est à plus 20%. Et puis, évidemment, toujours porté par Azure et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est plus de 13 milliards de dollars de revenus annuels avec une progression de 175%. Amazon, 155,7 milliards de chiffre d'affaires avec une progression de 10%. Meta, 42 milliards de chiffre d'affaires, plus 16%, résultat net de 16,6 milliards. Alphabet, 90 milliards de dollars, plus 12%, plus 12% sur un an. Évidemment, largement porté par les Google Services comme d'habitude. Avec 77 milliards donc sur les 17 sur les Google Services et puis Google Cloud 12 milliards plus 28% avec une grosse demande là aussi sur les solutions IA et sur le cloud. On a du mal à les plaindre quand même. Bon voilà, je sais pas si tu voulais réagir là-dessus. Peut-être je sais pas c'est quoi ton sentiment sur l'état d'Apple au-delà de voilà, on sait les critiques que tu as pu en faire et on sait tout ce qu'on peut critiquer d'Apple mais au-delà de ça. J'ai l'impression, moi, que ça sent pas très bon entre le Vision Pro qui est pas un succès, le fait que le nouveau Siri ait été un sujet qui n'a été fait qu'avec un montage Premiere et After Effects et pas du tout fondé sur une réalité qui était disponible, les tarifs douaniers. Est-ce que ça sent pas le début de la fin concernant Apple, Pierre-Olivier?
Regarde, moi, à mon sens, Apple, c'est une boîte qui se voit comme ayant comme cœur de métier de faire du hardware. Et ils font un excellent hardware. La réalité, c'est que ce que les utilisateurs manipulent tous les jours, c'est le software.
Ouais.
Moi, ça fait des années que je trouve que c'est nul. Vraiment nul. Ça a l'air que je suis assez minoritaire sur ce sujet-là. Mais clairement, on l'a vu avec Siri, la première mouture à l'époque, qui avait déjà été externalisée. Ce n'est pas Apple qui l'a développée. On le voit maintenant avec la nouvelle mouture de Siri. Et d'une façon générale, tout ce qui a trait à l'IA chez Apple, qui n'émerge pas du tout de l'interne, y compris pour les outils, parce qu'il y a des rumeurs que pour les développeurs d'Apple, il y aurait... une version de Xcode avec de l'IA, mais qui serait fournie par Anthropic
ouais.
Probablement. Tout ça, ça témoigne d'un retard phénoménal en termes de logiciels, et pas seulement en termes de qualité de logiciel, mais aussi de culture, de comment on fait du logiciel, etc. etc. Cela dit, force est de constater que d'être nul en software, ça les a quand même amenés là où ils sont. Donc, ils ne doivent pas être si nuls que ça ou ça ne doit pas être si important que ça. J'ai quand même le préjugé que le software mange le monde petit à petit et de plus en plus vite et qu'avec l'IA, ça s'accélère. Mmh. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, je ne suis pas extrêmement optimiste sur ce truc-là. Ils ont quand même des choses dans leur besace. Mmh. Ils ont des cartes à jouer. Comme j'ai dit, c'est une boîte de hardware. Et comme une bonne boîte de hardware, ils ont internalisé tout ce qu'ils pouvaient dans leur verticale. Alors oui, ils ne fabriquent pas leurs iPhones, c'est vrai. Mais ils ne fabriquent pas non plus leurs processeurs. Et ils font leur propre design de processeurs. Et pas depuis aussi longtemps que les gens le pensent, parce que le A1, c'est un Samsung, mais peu importe. Le fait est qu'aujourd'hui, là, c'est leur design de processeurs. Parmi les géants de la tech, En ce qui a trait aux barrières douanières et d'une façon générale au découplage de l'économie mondiale, je pense qu'ils sont les plus à même de résister. D'abord parce que le cœur de leur audience est américaine, donc pour eux perdre des marchés, évidemment, ça va leur faire mal. Mais ça, c'est beaucoup moins grave qu'un Microsoft qui est hégémonique en Europe, auprès des administrations publiques, etc., etc. Ou qu'un Google qui est à peu près à 50, 60, 80% de parts de marché dans certains pays. Apple se recentrera sur les États-Unis s'ils doivent le faire. Et puis voilà, ça va piquer, mais là-dessus, ils survivront. Et investir sur des capacités industrielles, ce n'est pas un choix qu'ils ont fait dans le passé, pour plein de bonnes raisons. Mais si c'est un choix qu'ils doivent faire dans l'avenir, je pense que de tous, c'est probablement ceux qui peuvent s'en sortir le plus rapidement en la matière. Maintenant, bon, ben voilà, c'est sûr que toute la partie logicielle, la partie IA, c'est difficile. Et puis, il ne faut pas négliger aussi la partie financière, parce que le cours de l'action a été quand même, il faut le dire, essentiellement dopé par les rachats d'actions que Apple a effectués. Et oui, plein d'autres boîtes se sont mises à le faire après. Absolument. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le cours de l'action est assez artificialisé par un phénomène de rareté, tout simplement parce qu'ils rachètent leurs propres actions. Et ça, c'est sûr que si moindrement il y a une baisse de cadence, que les investisseurs commencent à déserter un petit peu ce titre-là, et que là-dessus, il y a quelqu'un qui rajoute un très beau dossier de comment Apple a racheté pour des milliards de ses propres titres, etc. Ça, en bourse, ça risque de piquer. Mais bon, voilà, ça ne sera pas la première acrobatie financière d'Apple. Non.
On espère qu'ils trouveront un relais matériel quand même, hein, malgré tout. Bon, tant que les iPhones se vendent aussi bien, on ne va pas trop s'inquiéter pour eux. Mais voilà, on voit des géants, en tout cas, qui pourraient. Hein, ce n'est pas parce qu'ils ont toujours su rebondir qu'ils ne pourraient pas commencer à trembler. J'en veux pour preuve aussi ce qui se passe du côté de chez Google. Et alors, c'est hyper intéressant chez Google aussi ce qui se passe, parce que je trouve que la nature même de notre rapport au moteur de recherche a profondément changé. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Déjà, les résultats de Google ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils sont vraiment pas ouf. Moi, je ne passe maintenant que par, je dois dire, Perplexity. J'ai un peu honte parfois, mais ça concentre l'essentiel de mes recherches. Et du coup, je fais moins de recherches, j'ai tendance à dire. Bon, en tout cas, ça m'en donne l'impression. Et puis, il y a aussi, on en a parlé, la menace de se voir obligé de revendre, de se séparer de Chrome, peut-être même de Chromium. Et on a justement Sundar Pichai qui a été auditionné là, dans le cadre de ce procès, qui décidément nous donne du grain à moudre dans des épisodes de Podcast Tech, c'est cool, avec le département de la justice qui pourrait forcer aussi Google à partager son index de recherche et ses données avec ses concurrents pour un, je cite, « coût marginal ». Vraiment, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est l'essentiel de leur business. Donc voilà, on l'a dit avec Pierre-Olivier, les résultats sont plus aussi bons qu'ils ne l'étaient, mais ça reste le cœur de leur activité, le cœur de leurs investissements, là où ils mettent le plus d'argent en termes d'investissement. On pourrait les obliger à refourguer ça aux concurrents pour une bouchée de pain. Évidemment, ça les met en PLS. Ils sont en panique à ce sujet-là, et Sundar Pichai indique lui déjà d'une part au sujet de Chromium, de Chrome et de Chromium que personne ne pourra aussi bien s'en occuper qu'eux, très bien. Et puis ils disent aussi que si c'est ça, ils sont prêts à arrêter leur moteur de recherche. J'ai tendance à dire que c'est peut-être un effet d'annonce quand tu es auditionné au tribunal, mais que la réalité dans les faits n'est pas si évidente que ça. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu la période peut-être charnière à laquelle on assiste concernant Google, avec évidemment l'arrivée de l'intelligence artificielle. On l'a dit dans le cadre des résultats, et puis on peut en toucher un mot, l'intelligence artificielle chez Google, ça marche, même si ce n'est pas les premiers, ils n'ont pas autant de notoriété qu'un OpenAI sur le sujet, notamment auprès du grand public. Il y a notamment, alors Notebook LM, pour donner quelques éléments d'actualité, vous savez, c'est cet outil alors qui fait plusieurs choses, mais qui est très connu de la part du grand public technophile, parce que, en gros, vous y mettez des gros documents et vous générez un podcast à ce sujet. Il est désormais dispo en français, pas que, mais dans plusieurs langues. Donc, j'ai évidemment fait mon test et peut-être que j'en mettrai un petit extrait au montage, mais c'est bluffant. Je trouve qu'on s'en rend encore plus compte quand on est francophone et qu'on écoute ce qui est généré en français, de se rendre compte à quel point c'est bluffant et à quel point c'est qualitatif. Même si sur le fond il y aurait matière à discuter, mais sur le rendu c'est très très bon. Notebook LM qui va arriver avec une app mobile dédiée, Et puis, il y a aussi Gemini for Kids. Alors là, je ne l'avais pas vu venir, celle-ci. Google qui récidive ses initiatives de vouloir porter ses grands services comme il l'avait fait pour YouTube auprès des enfants. Alors, c'est rigolo aussi de voir ce sujet à l'aune de ce qu'on a dit au tout début de l'épisode avec des propositions politiques, avec Gemini for Kids, donc en l'occurrence, qui permet de créer des chansons, des histoires, des poèmes, de répondre à des questions, d'aider aux devoirs. Bah oui, évidemment. Tout cela est géré par Google Family Link. Donc, si on veut le désactiver pour les enfants qui sont rattachés l'espace Google Family, c'est possible, avec des avertissements qui sont indiqués. Peut-être que c'est des avertissements qu'on pourrait donner aussi aux adultes utilisateurs d'IA. Je cite, il faut faire comprendre à l'enfant que Gemini n'est pas une vraie personne, qu'il n'a pas toujours raison et qu'il ne faut pas y entrer d'infos sensibles. Voilà, je ne peux pas m'empêcher, moi, de me poser question sur ces initiatives de Google de mettre à disposition des services qui me semblent tout sauf matures pour être mis à disposition d'enfants. Bon, voilà. Pierre-Olivier, est-ce que là aussi, alors je te renouvelle peut-être la question pour Google, mais est-ce que pour le coup, dans le cadre de Google, c'est pas encore plus dangereux, encore plus crucial comme époque que pour Apple?
Ouais, clairement, je pense que c'est, je suis beaucoup plus inquiet pour Google que je ne le suis pour Apple. On l'a dit là, Google, le moteur de recherche, est mort. Le mec qui a sa tête, là, Prabhakar, c'est le gars qui a tué Yahoo Search.
Ah merde, je savais pas. Ah oui.
Non, c'est pas son premier. C'est pas son premier assassinat. Il reproduit exactement ce qu'il avait fait chez Yahoo et ça fait beaucoup plus de cash. Hein. C'est-à-dire que les mecs qu'il nomme là, des Sundar Pichai ou je sais plus qui était le CEO de Yahoo au moment où il a été nommé CTO de la technologie de recherche, ils font pas. Ils sont pas stupides, ils se disent pas putain le mec c'est un idiot, vas-y on va le mettre à l'endroit le plus crucial de la boîte. Non, c'est des recettes qui marchent pour aller chercher du cash, mais là où c'est vicieux, c'est que c'est du cash qui est généré en privilégiant le court terme plutôt que le long terme. Donc on va venir briser la distinction entre la publicité et les résultats naturels, on va arrêter de casser les reins des gens qui font du SEO. Etc. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est 5, 6 ans, je ne sais plus, 5 ans après sa nomination et les résultats de recherche. Google a fait un cash monstrueux avec ce type et les changements qu'il a amenés, mais maintenant, le moteur de recherche a été complètement drainé, vidé de sa substance. Et quand tu recherches n'importe quoi, tu as juste des liens commerciaux. Et évidemment, il n'a pas fait ça tout seul. Ça vient aussi avec une tendance du web où les contenus sont sur réseaux sociaux, les gens n'ont plus de sites perso, les ceci, les cela. La mercantilisation. La commercialisation du web et le fait qu'il n'y a plus que Wikipédia qui tient debout. Donc ça s'inscrit dans un tout. Ce n'est pas juste lui, mais quand même, lui, il se pose là. Donc c'est certain là, qu'ils n'ont plus ça. Ils ont appelisé beaucoup Android en mettant un certain nombre de fonctionnalités dans les Google Play Services pour des mauvaises raisons, mais aussi pour d'excellentes raisons. Mm-hmm. Hein. C'est pas non plus juste pour faire chier le monde. Il y avait aussi de bonnes raisons, mais c'est un état de fait. Donc aujourd'hui, ça devient difficile de garder une indépendance, une autonomie par rapport à Google quand on est un constructeur de téléphone Android. Et évidemment, sur le domaine des moteurs de recherche, la même chose se passe. Chrome, qui est un petit peu, entre guillemets, un accident de parcours, qui est Google, qui gueule sur Internet Explorer en mode si vous changez rien, on va le faire, on va vous forcer. Et le but du jeu, c'était juste de provoquer pour que tout le monde s'adapte. Ils ont pris le marché. Ils ont dealé avec, ils ont merveilleusement bien dealé avec, mais maintenant, exactement comme le moteur de recherche, c'est devenu une machine à cash. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils doivent s'en séparer? Clairement, ils sont dans la merde. Et là, si on va aussi loin que partager les données, parce que, on le répète, ad nauseam, Google ne vend pas vos données, c'est la seule chose qui lui permet de faire de l'argent, c'est précisément de les posséder et de ne pas les vendre. Là, s'ils doivent les partager, même à coût prohibitif, parce que là toi tu parlais d'une somme presque symbolique, je ne me rappelle plus le terme que tu as utilisé, mais même
marginal,
si c'est un,
il parlait d'une somme marginale.
Il y aurait des acheteurs, et une fois que c'est sorti, le loup est sorti du bois. Tout le monde va y avoir accès, parce qu'il y a juste à copier. La seule chose qui donne la valeur, c'est l'exclusivité de ces données sur les utilisateurs qui ont été acquis transmédia. La télé, le téléphone, le navigateur, le moteur de recherche, les mails, vos documents, vos déplacements, vos habitudes de consommation de médias, tout ça, ça n'a de valeur que parce que Google est le seul à le posséder. S'ils doivent le partager, la boîte est pliée, c'est fini, en 5 ans, il n'y a plus.
Tu utilises quoi, toi, à titre perso, maintenant, quand tu fais des recherches en ligne? Est-ce que tu utilises des moteurs de recherche payants que tu as trouvé qualitatifs, des IA? Tu ne recherches plus?
Je recherche vraiment de moins en moins, clairement. J'arrive encore à m'en sortir avec quelques skills de filtre, de résultats de recherche. Évidemment, comme tout le monde, je rajoute Reddit dans les mots-clés que je recherche. J'utilise aussi pas mal Ecosia. Je suis pas incroyablement satisfait, mais clairement c'est pour beaucoup de sujets c'est un
mais parce que l'algo d'Ecosia c'est pas celui de Google. Ils font pas appel à Google? Si
mais ils sont sur des index qui sont plus vieux, donc moi je trouve que ça fait quand même une différence, je suis quand même pas satisfait non plus là. Fait que non, je suis vraiment un désespéré du web. Pour moi, je pense qu'il faut reboot le truc, quoi.
Bon, ça va être un géant. Moi, j'arrive presque à me dire qu'on va voir vaciller Google plus vite qu'Intel, par exemple. Bon, les résultats financiers pour l'instant me donnent évidemment tort, mais. Écoute, on continuera à parler de Google quand on aura du nouveau. Ah oui, il y a le Material Design aussi. Ah oui, ça, peut-être juste un mot quand même, c'est important. Le Material Design 3, là, la nouvelle version, moi j'ai vu passer des images. C'est joli, c'est mieux. Il y a des trucs qui sont quand même globalement plus lisibles dans les listes, dans les menus déroulants, etc. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui, là aussi, que Google essaye de faire tout un foin sur des orientations de design pour Android, compte tenu de la manière dont tu es. Proposer Android aujourd'hui, je sais pas, je trouve ça complètement déconnecté des priorités. Alors,
c'est pas juste Android, hein. C'est quand même très présent sur ouais, exactement.
C'est vrai.
Et puis ça a clairement leaké dans les patterns UI UX d'iOS aussi. Ouais. Hein, et bon, il y a une certaine influence dans le design Apple, mais surtout c'est les applications tierces qui suivent beaucoup Material. Même s'il est très adapté, mais Material est prévu pour ça. Hein. C'est vraiment un design système sans opinion. Hein. C'est-à-dire qu'on le prend, on le met à sa sauce, et je ne parle pas juste de changer les couleurs. On peut vraiment lui donner une vibe différente. Je pense que ça a du sens. C'est le design système le plus utilisé aujourd'hui, cross-platform. C'est peut-être l'un des seuls trucs où tu vas entendre des designers dire ouais, Google fait du bon travail. Okay. En général, quand tu es designer, tu es vendu Apple, machin, etc. Donc pour Google, il y a quand même un aspect soft power non négligeable d'être à l'origine de Material Design et d'avoir été déjà la première fois que c'est sorti, la boîte qui a ringardisé le UI d'iOS, même si Apple c'est a très 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 vite rebondi, d'avoir été quand même la boîte qui a réussi à prendre un design système qui est suffisamment intelligent, pertinent, sans pour autant imposer des choix stylistiques et que tout le monde peut adapter à sa sauce. Je pense que ça, c'est quand même une gageure.
Et qui était adapté à plein d'interfaces, d'appareils même. Enfin, déjà à l'époque, c'était la vocation. Tu parlais de l'importance de Material Design sur des interfaces web, par exemple. C'était le cas aussi pour évidemment les premières versions. Avant de poursuivre, j'aimerais quand même rappeler à vous qui nous écoutez que Tech Café existe, ça c'est sûr, grâce à vous, mais il existe aussi pour les personnes qui soutiennent le podcast grâce à Patreon. Alors peut-être le premier pas, c'est si vous n'êtes pas déjà abonné sur Patreon, de vous abonner gratuitement sur la page patreon.com/techcafé. Ça permet d'accéder à quelques infos exclusives sur le podcast et puis sur des coulisses de création, même s'il n'y a pas autant d'infos que quand on est abonné payant. Mais en fait, aussi, au passage, Patreon, c'est aussi un écosystème assez cool de créateurs. Je voudrais, par exemple, mentionner, il y a Romaric Briand, que j'ai déjà cité dans le podcast et qui est déjà intervenu sous les formats interview, qui est créateur de jeux de rôle indépendants et de jeux même de sociétés indépendants. Il anime un autre podcast qui s'appelle La Cellule. Et il y a le dernier épisode de La Cellule, je voulais vous en toucher un mot, qui est hyper intéressant parce qu'en fait, il parle d'un jeu de société qui s'appelle Daybreak. Est-ce que tu connais ce jeu de société, Pierre-Olivier ? Je sais que tu aimes bien quand même les jeux.
Ça alors, Daybreak, rien.
C'est un jeu de société fait par des Américains, il faut le garder à l'esprit, mais qui a été traduit, et qui te propose d'incarner une des puissances géopolitiques mondiales et de lutter contre le réchauffement climatique. Et pour ça, tu fais comment ? Alors, tu as plusieurs éléments de jauge de ton jeu. Il faut que tu satisfasses quand même tes populations, etc. Mais tu peux aussi utiliser des solutions technologiques innovantes. Hein, je cite le jeu. Et c'est hyper intéressant parce que dans la restitution du jeu que fait Romaric Briand dans l'épisode de podcast de La Cellule où il parle de Daybreak et des personnes qui participent au podcast avec lui, il critique aussi ce techno-solutionnisme. Je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est aussi un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises dans Tech Café, même si là, il est traité sous l'angle des industries pour traiter du réchauffement climatique à grande échelle, voire avec des échelles de l'ordre de la science-fiction. Mais voilà, c'est un jeu de société que je trouvais plutôt cool et surtout, l'épisode de podcast était très chouette. Donc, si vous voulez soutenir le travail de Romaric Briand, vous pouvez le retrouver sur Patreon. Et puis, si vous voulez soutenir Tech Café avec un abonnement payant sur Patreon, c'est à partir de 6 € par mois, hein, modulo les taxes. Et puis, vous bénéficiez immédiatement d'un flux privé sans pub directement dans votre app de podcast habituel. Et puis, des contenus exclusifs que je pourrais vous partager. C'est sur patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'épisode. On va terminer cet épisode de podcast en parlant un petit peu d'intelligence artificielle parce qu'il y a quelques sujets à relayer. D'une part, une question, puisqu'on a abordé le fait qu'il y avait des projets d'OpenAI. Alors, voilà, comme d'autres outils d'intelligence artificielle, de proposer des navigateurs et de proposer aussi des réseaux sociaux. Et là, il y a a priori Meta qui a coupé l'herbe sous le pied des concurrents potentiels. En proposant une nouvelle app dédiée à l'IA, ils n'avaient pas leur propre app Meta, hein. Ils avaient mis du morceau de Meta AI un peu dans toutes les apps là où on ne voulait pas l'avoir, mais bon, ils l'ont mis quand même un peu partout. Ils ont aussi l'application maintenant Meta AI, a priori avec une composante sociale, donc on va pouvoir aimer, commenter, même reprendre des prompts des proches. Évidemment, l'IA va pouvoir capitaliser sur ce qu'on a déjà publié sur ses réseaux sociaux. L'app va aussi accessoirement permettre de gérer vos montures connectées Meta. Ça ne gâche rien d'avoir une seule application. Mais ça commence à dessiner une crainte et une vision que j'avais. C'est cette espèce d'évolution assez incontournable, dont je me passerai bien hein, à titre personnel, du mariage malsain entre les réseaux sociaux et les IA. La recherche, je pense que c'était évident qu'on verrait des fonctionnalités d'IA basées 100% sur de la recherche à la Perplexity. Ça, on pouvait le voir venir. Et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment peut-être... Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement du pire de ce qu'on peut imaginer dans les progrès de l'IA, Pierre-Olivier, que de mixer des composantes sociales avec de l'IA, sans parler de l'augmentation de la viralité que ça va pouvoir avoir sur des usages consommateur d'énergie et pas forcément pertinent. Je sais que tu es très déconnecté des réseaux sociaux maintenant, donc je sais pas si tu as un avis sur le sujet. Mais...
C'est celui qui pense qu'il est. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, je vais mettre un bémol quand même. Je pense que Facebook, c'est pas vraiment... Ben, Meta, c'est pas exactement ce qu'ils font avec et je trouve ça cool qu'ils testent
très
des
bien.
Choses.
Okay.
En mode grand public... vas-y, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on lance un concept, puis on verra bien. Et ça, en soi, déjà, en général, c'est rare que ça émerge de grandes entreprises. Moi, je trouve ça cool. Mais maintenant, ça, c'est la forme. Sur le fond, clairement, ça vient surfer sur les tendances de... plusieurs d'entre nous l'avons fait. Les trends, vas-y, le starter kit.
Ah ouais. Moi, j'ai succombé.
Eh oui, je sais, je ne voulais pas te sortir du... OK. Mais voilà, on est très nombreux à l'avoir fait. Voilà, ça vient récupérer ce genre de tendance en mode, vas-y, on a fait ça, c'est cool, on partage. ah, toi aussi, tu peux le faire, etc., etc. Et donc, je pense que il y a vraiment matière à ce que ça lève une audience. Est-ce que ça va être du contenu intéressant? Pas vraiment. Est-ce que ça va tenir sur le long terme, ceci dit? Je ne suis pas certain, parce que veut pas, ces contenus-là, ils sont ultra standardisés. La première personne qui le sort, OK, est originale, etc. Mais ensuite, c'est tellement l'avalanche de contenus extrêmement similaires qu'au bout de 2-3 jours, c'est déjà très intéressant. Et donc là, si on multiplie ça par 20 000, tu sais, des tendances comme ça, là, on en a déjà là, sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais il y a quand même tous les jours des nouveaux concepts qui sortent. Il peut y avoir des choses qui émergent. Alors que là, je pense que ça va être difficile de voir des trucs créatifs émerger parce qu'on est déjà mindé copie, quoi, en fait.
Je vais revenir sur un élément au passage, hein, parce que c'est vrai que ce qu'on pourrait arguer, c'est que le fait de réseau socialifier les IA augmenterait encore la consommation d'énergie et d'eau. Il y a juste un truc que j'ai entendu dans un autre podcast du compère Matt dans Apple Différemment avec Audrey Coulot. Tu connais la quantité d'eau pour une requête ChatGPT, une quantité d'eau moyenne. Enfin, ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps, ça a buzzé 500 millilitres d'eau. Et je dis ça parce que la viralité de ce genre d'usage des IA pourrait faire consommer beaucoup d'eau. Et il y a un truc qui m'a estomaqué. Est-ce que tu connais la quantité d'eau, en moyenne, hein, que prend le fait d'apporter une tasse de café? Voilà, il y a un serveur, là, tu as un café, il t'apporte une tasse de café. La quantité d'eau engendrée par l'intégralité de la production de café jusqu'à ta consommation.
Oh, y a tellement d'externalités que ça va forcément aller dans la centaine de litres.
140
plus.
Litres d'eau pour une tasse de café de 125 millilitres. Évidemment, le pire du pire, c'est un steak de bœuf de 220 grammes. C'est 3100 litres d'eau. Tout ça, c'est des ordres de grandeur. Hein. Ce n'est pas des chiffres qui sont vérifiables à chacune des tasses de café et à chacun des steaks hachés. Mais je me dis, quand on met ça en regard de la consommation d'eau et d'énergie d'une requête par IA, bah, c'est toujours le même problème. Hein. Ce n'est pas l'usage à titre individuel qui pose problème, mais c'est la masse des usages. Et c'est la multiplication irraisonnée qui peut poser souci. Bon, voilà. Alors non, pendant qu'on parlait de méta quand même et d'IA, il y a quand même un truc assez marrant qu'il faut qu'on souligne, c'est que donc il y a une audience qui oppose actuellement méta à des auteurs de livres qui accusent méta de violer des droits d'auteur. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je vous laisse réfléchir. Mais en tout cas, il y a cette audience. Et Meta affirme de leur côté que l'entraînement, il est nécessaire, il relève du fair use, hein, on en a déjà parlé, sans quoi, évidemment, s'ils ne soutiennent pas ça, je pense qu'il y a tout un pan de l'industrie qui pourrait être au moins pendant un temps paralysé, donc ça poserait problème, donc il faut se reposer sur ce fair use. Et puis, forcément, le juge là, qui est quand même décisionnaire sur cette histoire et qui pourrait créer un précédent et faire un peu de jurisprudence, je le cite, hein, vous avez des entreprises qui utilisent du contenu protégé par le droit d'auteur pour créer un produit capable de produire une infinité de produits concurrents. Je ne comprends tout simplement pas comment cela peut relever du fair use. Donc, cette affirmation, cette phrase hein, qui a été largement citée et partagée dans la presse tech est quand même lourde. Il y a un juge qui est en train de dire « Je ne comprends pas comment vous pouvez prétendre que ça relève du fair use ». Et les discussions vont toutes dans ce sens. Il y a des éléments qui nous sont cités. Il y a l'avocat de Meta qui a soutenu que le droit d'auteur ne protège pas les auteurs contre la concurrence dans le marché des idées. Et le juge n'a pas été convaincu. Il a répondu « Ah, d'accord, mais si je pioche dans ce marché des idées pour construire les miennes sans autorisation, c'est quand même une violation du droit d'auteur, non ?» Et la prochaine Taylor Swift, comment pourrait-elle percer si une IA produit 1 milliard de chansons pop dans son style ? Bon, voilà. D'ailleurs, c'était un peu rigolo. Il y avait une blague du juge qui a dit « Bon, je vous donnerai mon avis demain. » Et puis, il a dit « Haha, non, je rigole, ce sera dans bien plus longtemps. » Donc, la décision ne va pas arriver tout de suite. Mais je ne sais pas si on n'est pas là aussi hein, à l'aube d'une décision qui pourrait faire jurisprudence. Écoute, Pierre-Olivier, si demain un juge dit ce que vous dites, que ça relève du fair use, ce n'est pas vrai. Et on vous dit « Vous ne le faites pas, vous mentez. » Ce qui, moi, est un peu mon intime conviction, même si c'est très compliqué dans ma perception des choses. Mais en tout cas, un juge dit ça. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Qu'est-ce qu'ils disent OpenAI? Qu'est-ce qu'ils disent Google? Qu'est-ce que dit la tech? C'est trop gros pour que ça arrive, non?
Et en même temps, ça serait quoi la conséquence réelle? Est-ce qu'on n'a pas déjà passé ce cap-là, de toute façon? Ils ont absorbé Internet et même plus. Ils ont déjà entraîné des modèles. Et maintenant, aujourd'hui, la plupart des derniers modèles sont entraînés avec une part conséquente de données.
Qui sont générées par d'autres modèles déjà existants.
Exactement. On en avait parlé pour DeepSeek, comme quoi c'est de la triche, machin. Bon, ils font tous pareil. C'est pas la triche de DeepSeek, elle réside pas là. C'est tous les modèles qui ont été entraînés, tous les derniers modèles qui ont été entraînés par des données synthétiques. Donc, mettons qu'il y a un jugement. Mettons même qu'il y a une condamnation, une amende, etc. Le business est tellement gros que la condamnation, ça sera peanuts par rapport au potentiel de revenus. Et les données, elles ont déjà été absorbées. Ce qui serait cataclysmique, par contre, là, c'est si la justice dit vous ne pouvez pas
vous ne pouvez plus utiliser ce que vous avez exploité sur la base d'un prétendu fair use qui n'en est pas un.
Exactement. Mais là, par contre, il y a tellement d'enjeux géopolitiques maintenant que l'IA commence à se mêler de sujets militaires, de machins, etc. Que ça, effectivement, là, je pense qu'on est, dans le domaine du « c'est trop gros, c'est pas possible ». Ou alors, on passe en mode, j'allais dire soviétique, c'est peut-être une mauvaise allusion, mais où on nationalise des programmes et bon, la NSA dispose de suffisamment d'informations pour entraîner des modèles sans avoir d'enjeux légaux, etc. Mais là, on quitte le domaine du grand public, ça veut dire que l'IA est plus du tout... un sujet d'innovation propulsé par le libéralisme et devient vraiment un truc étatique avec des itérations qui vont être beaucoup plus lentes, mais beaucoup plus centrées sur des sujets qui sont importants pour l'État. On spécule, là, c'est difficile de se projeter. En tout cas, moi, ce que je retiens surtout, c'est que télécharger des millions de livres sur BitTorrent, c'est OK. Donc, moi, je démarre mon client torrent ce soir parce que c'est OK.
Bon, je te laisse à tes risques et périls de l'avoir affirmé dans un podcast à très grande audience, sache-le, Pierre-Olivier. mais en fait, ce que je retiens quand même, c'est que ces grosses boîtes tech, en fait, ils ont gagné en faisant le forcing, puisque quel que soit le jugement, ils auront gagné. Donc, quelque part, en plus, ce qui me fait un peu peur, c'est ce que ça cautionne pour la suite. C'est que ça montre que il vaut mieux avancer vite et fort. De toute façon, c'est pour ça qu'ils le font, sans attendre les arbitrages, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. On va terminer dans une petite sortie, une semi-sortie du domaine de l'IA. Alors, on va passer très, très vite sur la structure juridique d'OpenAI, parce qu'en fait, c'est chiant, cette histoire. Enfin, sauf si tu veux en tirer quelque chose d'intelligent, mais...
Non,
en fait, c'est chiant, mais je voulais le mentionner quand même, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. OpenAI ne sera pas une société... Enfin, ils avaient un projet d'évoluer 100% en société à but lucratif et donc ils vont garder cette structure un peu bicéphale, enfin, ou plutôt la société à but non lucratif détient la structure commerciale d'OpenAI. Bon, bref, il n'y a pas grand-chose à en dire d'autre qu'ils n'ont pas réussi à le faire et qu'ils sont obligés de garder la structure originale, soi-disant en ayant discuté avec des décideurs, des responsables politiques, etc. Bon, bref, très bien. Bon, en fait, ça ne change rien et ce n'est pas très intéressant. L'autre truc que je voulais quand même aborder avant qu'on se dise au revoir, Pierre-Olivier, qu'on touche un petit mot des jeux vidéo, mais qu'on se dise au revoir, c'est ce sujet de déploiement de Orb, alors qui est déployé déjà dans d'autres pays dans le monde. Je vous reprécise Orb et Guillaume Pogdiaspala, on avait largement parlé par le passé, c'est l'entreprise World, dans laquelle Sam Altman est partie prenante, qui vise à développer donc, cet outil, qui est vraiment une boule, qui est très, très science-fictionnesque, encore une fois, une espèce de dispositif sphérique, métallique. Le but, c'est de scanner notre iris pour générer une empreinte numérique qui est d'une part stockée sur votre appareil, sur votre smartphone, sur l'application World ID, et qui est de l'autre côté, ce n'est pas la même empreinte, mais il y a aussi une empreinte qui est stockée sur une blockchain. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de prouver que vous êtes humain. Ce n'est pas de faire un sign-in with Google ou with Apple ou que sais-je. C'est pas, vous n'allez pas pouvoir vous identifier avec ça. Vous allez juste pouvoir, au même titre que vous remplissez des CAPTCHA quand vous vous inscrivez sur certains services en ligne, prouver votre humanité. Donc, c'est déjà déployé dans d'autres pays pour certaines technos. A priori, il y a Il y a Match qui est derrière Tinder, qui l'a déployé pour le Japon, de ce que j'ai compris. C'est désormais quelque chose qui se déploie dans plusieurs villes américaines. Il y a certains endroits où ce n'est pas encore possible, d'ailleurs aux États-Unis. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais bon, en tout cas, ça se déploie. Jusqu'à 7500 orbes de ce type-là devraient être déployés dans le pays et qui sont assemblés dans une usine à Richardson, dans le Texas. Il y a même une version portable, la Orb Mini, qui est prévue pour 2026. Donc, encore une fois, le but, c'est que cette Orb, ce n'est pas un appareil que vous portez sur vous, que vous emmenez ou vous avez chez vous, mais pourquoi pas, allez, on pourrait l'imaginer dans une mairie, par exemple. Et puis, quand tu veux aller générer ton World ID, donc un truc qui est quand même plutôt de l'ordre du privé, mais qui permet d'authentifier de manière, avec une trace décentralisée, votre humanité auprès du grand public, ce truc est en train de se sortir. Et en fait, je suis très partagé. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir, Pierre-Olivier, l'archétype de cette espèce de technosolutionnisme à grande échelle. Alors, je mets de côté un petit peu la captation des données biométriques, même si elles ne sont pas conservées, elles servent juste à générer une empreinte chiffrée, etc. etc. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup de l'arrivée, surtout, je fais écho aussi à l'épisode de Lumière Obscure qu'on vous a partagé il y a de ça quelques jours maintenant, où on parle des techno-libertariens aux États-Unis et des mouvements qui en découlent. Et en même temps, il y a quand même cet enjeu de plus en plus grand, en tout cas qui est le nôtre en 2025, qui n'était pas le cas il y a 10 ans quand on a commencé le podcast, Pierre-Olivier, qui est de prouver qu'on est un humain. Aujourd'hui, l'enjeu devient plus grand qu'avant. Il faut des solutions, j'ai l'impression, maintenant, pour prouver qu'on est humain. Est-ce qu'on doit applaudir de nos deux mains cette initiative qui, en plus, et déployé avec des technos, alors à prendre avec des gros guillemets, hein, mais open source, même s'il y a des éléments qui ne sont pas tous dispo, tout le monde ne peut pas reproduire le truc dans son garage. Mais est-ce qu'on doit quand même regarder ça, sans mauvais jeu de mots, avec un œil curieux, en se posant la question de quel besoin il y a réellement de cette orbe, Pierre-Olivier ?
En soi, là, sur le papier, une preuve d'identité sur la blockchain, moi je trouve que c'est pertinent. En fait, pour moi, là, les histoires de monnaie sur la blockchain comme Bitcoin, ouais, etc., Ethereum, je comprends pas. Je veux dire, je comprends très bien les enjeux de spéculation, machin, etc., mais je veux dire, le vrai intérêt humaniste, pour moi, il est pas là. Et, par contre, dans la traçabilité, l'inviolabilité des contrats et machin, etc., oui, ok, parfait. Et donc, effectivement, une forme de pièce d'identité, c'est le scénario typique pour lequel ça fait, c'est très pertinent. Donc, ok, sur cet aspect-là, je suis vendu. Sur l'aspect que ce soit plus ou moins mondial, bon, ben c'est bien de rêver grand. Je comprends que quelqu'un comme Sam Altman ne puisse pas viser plus bas. Je l'ai. Moi, la partie Iris, je ne la pogne pas pantoute. Déjà, ça ne ressemble pas à Sam Altman. Ça ressemble à Elon Musk, qui a des fixations bizarres, ben, si tes yeux sont capables de le faire, tu n'as pas besoin de radar. Le train, c'est de la marre, les gens, ils veulent être dans leur voiture, donc on va faire des trains de voiture. Ça ressemble à des obsessions monomaniaques de Elon Musk. Ça ne ressemble pas à des idées de Sam Altman. Ça, déjà, en soi, ça vient me titiller. J'arrive pas à me séparer de mon petit chapeau conspirationniste. C'est quoi son idée qu'il a en arrière de ça ? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre avec ce truc ? Et le dernier volet, c'est en quoi l'Iris, c'est une preuve que
t'es... Au passage, on mettra entre parenthèses le fait qu'il y a des personnes qui n'ont plus Dieu, qu'on n'ont pas. Je ne peux pas prouver
que
c'est un
meuble. Oui, exact. Et des gens qu'on détache dans l'iris, et ça ne prouve pas que tu es un humain. On peut générer des images d'iris. Alors peut-être qu'au moment où on se parle, on n'est pas capable de générer une photo d'un iris que on pourrait confondre avec un vrai iris. Ça se peut. Mais c'est sûr qu'on va être capable de le faire. Il n'y a aucune
surtout
raison.
Surtout s'il y a un truc comme Orbe qui sort, qui prouve l'humanité. Là, c'est sûr que ça va arriver.
Mais bien sûr, je ne comprends pas le concept. Pour moi, c'est vraiment nul comme preuve de ton humanité. À la limite, si tu me dis, nous, on prend ton certificat de naissance comme élément de départ, là, je te dirais, OK, On sait que dans le monde, il y a X% de papiers qui sont faux parce que la corruption, parce que ci, parce que ça. Il y a des gens qui sont morts, mais on va continuer à utiliser leur identité. C'est un risque contrôlable, bien documenté et facilement sur lequel on peut facilement faire des progrès et arriver à un stade où, yo, si on t'a fait un certificat de naissance parce que quelqu'un t'a vu pour vrai, t'es un humain. Mais l'iris, là, vraiment, moi, dans ma tête, c'est genre obsolète dès day one. Je le comprends pas. Et je regarde la machine dans le conducteur de l'émission. Tu as mis le lien de TechSpot et l'une des illustrations qui vient évidemment du Media Kit, c'est la machine et tous ses composants. Et ça me paraît incroyablement complexe pour générer une fingerprint de ton iris. Ça, je sais pas. Pour moi, ça fait pas ça. J'ai pas l'impression. Je suis désolé. Je vais faire mon Didier Raoult là-dessus. Il y a quelque chose d'autre là.
La preuve d'humanité, si on doit trouver au passage un élément biologique qui permet de prouver l'humanité, il y a un super truc alors qui est moins facilement accessible qu'un scan de l'iris et qui est moins sexy. Hein. Tu peux pas faire une boule comme ça qui te le capte. C'est l'ADN. Enfin, je pense que si on arrive à capter l'ADN de quelqu'un, tu prends le codage de son ADN, tu fais une empreinte. Ah purée, ça c'est une preuve d'humanité, tu vois, tu peux pas imaginer avoir quelque chose qui arrive à... Mais alors les algos à digérer derrière me paraîtraient diablement complexes, et sans doute que de capter de l'ADN et de le faire transformer avec des empreintes numériques serait bien plus compliqué que le scan d'iris. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de curieux derrière ce truc que je vois du coup maintenant se déployer à plus grande échelle. Et j'ai l'impression que je manque quelque chose, peut-être que je manque d'un caractère visionnaire, ou comme tu le dis, il y a un truc qu'on n'a pas compris, qu'on apprendra peut-être par la suite, qu'on comprendra mieux par la suite, je ne sais pas. Faites attention aux bouboules comme ça numériques que vous croiserez dans la rue. Un dernier mot, jeu vidéo, avec allez, ma question régulière, Pierre-Olivier, tu le sais, j'aime bien te poser la question. Est-ce que tu as du temps est-ce que tu as du temps à passer sur des jeux vidéo? Est-ce que tu as des services qui répondent à ce besoin en ce moment?
Pas assez, puis je suis sur la version gratuite de la solution d'NVIDIA, ouais, GeForce Now, mais non, pas assez de temps de jouer pour le moment.
Bon, alors peut-être qu'on pourra quand même jeter un regard, on parlait tout à l'heure des résultats des géants de la tech, on pourrait parler un petit peu de Microsoft, qui peut quand même s'afficher déjà fièrement en progression de 8% pour le chiffre d'affaires sur les contenus et les services Xbox. Ils vendent moins de Xbox, ça on le sait, mais ça va quand même pas si mal que ça pour eux avec leur stratégie de ceci est une Xbox un peu à tort et à travers. Ça fonctionne, une progression des utilisateurs hebdomadaires du Game Pass a priori portée par simplement parce que c'est pas si simple, ça coûte cher, mais simplement un film comme Minecraft, et puis c'est désormais le plus grand éditeur sur PlayStation. Si on prend en compte les précommandes et les installations, en 2025, donc, on peut dire que Microsoft est le plus grand éditeur de jeux sur PlayStation, évidemment porté par la stratégie du chéquier en rachetant des studios. Mais voilà, ils en sont arrivés là. Finalement, je crois que ça illustre bien peut-être un des éléments qui ressort de cet épisode, c'est que la tech arrive toujours à ses fins, même s'il faut prendre des chemins de traverse. Merci infiniment, Pierre-Olivier, de m'avoir accompagné sur cet épisode et d'avoir permis qu'on livre un épisode où je ne sois pas en monologue inintéressant auprès des auditeurs et des auditrices. Est-ce que tu peux peut-être tout simplement rappeler où on peut te retrouver? Quel est le coin le plus select et le plus incontournable où on peut te retrouver et échanger avec toi, Pierre-Olivier?
Et c'est évidemment le Discord de Tech Café.
Merci, Pierre-Olivier, où on parle sur ce serveur Discord de cuisine. Je me suis reconnecté là sur Discord tout à l'heure, je n'ai pas pu y aller pendant un petit moment. Ah, j'en ai perdu l'habitude aussi, vous avez raison, parce que je passe aussi du temps à des choses que je pourrais consacrer plus à interagir avec vous sur Discord. Mais il y a cette rubrique cuisine où j'ai posé des petites questions sur le Cookeo, sur l'air fryer. On a des discussions sur les poêles inox. J'arrive à me demander si on parle vraiment de tech, en fait, ou si peut-être que c'est justement une consommation de la tech qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'on n'aborde pas dans le podcast et qu'on peut aborder entre nous et avec vous sur le serveur, donc Discord, tacafé.fr/Discord. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous avez écouté pour la première fois Tech Café, évidemment, abonnez-vous. Envisagez de vous abonner au moins sur la partie gratuite patreon.com/techcafé. Tous les liens sont sur techcafé.fr. N'oubliez pas de déposer un avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict et Spotify. Et en attendant, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Bye bye.